L'œuvre de Richard Ford est marquée depuis sa première publication par la présence de véhicules qui, au fil des pages, se révèlent être le véritable moteur de l'action. Les critiques ont d'ailleurs souvent joué sur son nom de famille pour titrer leur recension. Sur la route de Ford, ça va pas Ford, Ford fin de série, Ford Transit, Ford dans le rétroviseur, et je vous en passe, et des meilleurs. Les automobiles, à l'instar du cinéma dans le cinéphile de Walker Percy, ont chez cet écrivain le pouvoir de certifier l'existence des personnages. Dans le système des objets, Jean Baudrillard suggère que de nos jours, le déplacement est une nécessité et la vitesse est un plaisir. La possession d'une automobile l'est plus encore, une espèce de brevet de citoyenneté. Conduire, c'est vivre. La première nouvelle que Ford publie en 1975, « Shooting the Rest Area », s'ouvre ainsi, je cite, « In the dark, Edgar Haney walked from his truck and turned up the sidewalk to the café. » Cette scène inaugurale, qui se passe peu avant le lever du soleil, amène le personnage à se remémorer son enfance et la voiture que conduisait son père, « A Black Mercury ». Le véhicule est présenté comme l'objet qui initie cet instant introspectif. Après le déjeuner, une fois qu'Edgar a regagné son camion, le passé ressurgit, de même que la Mercury noire, et il revoit le moment où sa mère lui a appris à conduire. Comme c'est le cas pour Ford, qui raconte son enfance mouvementée dans l'essai « An Urge for Going », enfance est synonyme d'errance dans la nouvelle. Edgar garde à l'esprit les séjours passés à l'hôtel avec sa mère, tandis que son père, représentant, tentait de faire des ventes pour subsister à leurs besoins. Tous les épisodes qui se succèdent sont introduits par le biais des véhicules qui amènent les personnages d'un lieu à l'autre. Le camion d'Edgar au début du récit, la Mercury noire qui sillonne le pays, le camion vert de Covington lorsqu'il va à la pêche et tue involontairement son ami Sales, les Lincoln Continentals des Texans qui envahissent les routes quand est ouverte la chasse, ou encore les grosses berlines d'autres chasseurs venus de Memphis. Chez Ford, celui qui conduit est. L'écrivain définit cette première nouvelle comme « a precipice for a piece of my heart », son premier roman. Un autre texte, « The Newell Vignettes », publié la même année, partage le même statut et on y retrouve la Mercury noire. L'admiration du fils pour son père est plus marquée et la Mercury n'y est pas étrangère car les voyages qui se succèdent sont présentés comme des aventures qui ont balisé ses jeunes années. À la mort de son père, le personnage, qui n'est pas nommé ici, prend la route. He went in a car to Vicksburg with a boy named Roscoe Sampson. Le personnage est donc toujours passager et d'une certaine façon passif. À l'occasion de la virée avec Roscoe, il est même spectateur, pour ne pas dire voyeur, quand il accompagne son ami dans un bordel avant de pénétrer avec lui dans la chambre d'une femme qui les accepte, faute d'avoir mieux à faire, leur dit-elle. Mais le personnage anonyme ne fait rien, il observe. He sat in the chair at the end of the bed while Roscoe Sampson did. Roscoe's testicles bouncing against the woman like peas in a colander. L'épisode se termine au moment où l'acte sexuel a été commencé, et les dernières vignettes, plutôt que d'explorer l'après, reviennent sur le passé. Le père est à nouveau sur la route et le fils découvre de nouvelles vies et villes. Jackson, Mississippi, est un nain qui joue à la fois dans des films et au cirque. La Nouvelle-Orléans est un acteur de films pornographiques qu'il n'est pas capable d'identifier comme tel. Le voyage dans le passé n'est pas étranger aux idées qu'avance Baudrillard, à nouveau, dans « Amérique », quand il définit la vitesse comme, je le cite, « effaçant le sol et les références territoriales, puisqu'elle remonte le cours du temps pour l'annuler. La vitesse crée un espace initiatique qui peut impliquer la mort et dont la seule règle est d'effacer les traces. » La structure de la nouvelle montre bien ce désir d'annuler le temps, de faire revivre le père par le truchement du souvenir. Pourtant, on est tenté de déceler également, à la suite de Baudrillard, que, je le cite, « peut-être cette fascination de la vitesse, n'est-elle que celle du vide, alors qu'il n'y a de séduction que du secret. » Pris dans la vitesse de ses analepses, Le personnage de Ford ne perce pas les mystères du passé. Il en voit la surface, mais continue d'en ignorer les profondeurs. Les deux nouvelles montrent l'importance de la route chez Ford, et son premier roman s'est construit à partir de ses textes. Un autre, In Desert Waters, publié dans le magazine Esquire pour promouvoir l'opus, s'ouvre, lui, sur une panne de voiture, amenant une relation qui n'ira nulle part entre la victime de la panne et le sauveur. A Piece of My Heart serait ainsi un roman de la route et un roman de la quête du père. Prendre la route, pour les personnages égarés que l'on croise dans ce premier roman, a cependant une finalité bien sudiste que l'on a reproché à Ford. Ce mouvement réintroduit inlassablement le passé dans le présent. C'est pour ne pas être à jamais étiqueté comme écrivain du Sud que l'auteur s'engagera sur la route du Nord, comme son alter ego, Frank Bascombe, dont les histoires ponctuent la carrière de son créateur depuis plus de 30 ans. Dans plusieurs de ses essais autobiographiques, Ford se souvient de ses jeunes années sur la route, accompagnant ses parents pour suivre son père qui était, comme le père qui figure dans ses premières nouvelles, représentant. La route et le voyage occupent de la même manière une grande place dans ses œuvres. Cette communication, donc, elle est quasiment finie, portera plus précisément sur le recueil Rock Springs, en fait sur les deux premières nouvelles de Rock Springs. Et j'avais dans l'idée d'étudier quelques nouvelles de A Multitude of Sins, mais j'ai été pris par le temps. Donc Ford a dans ses textes recours à la métaphore bien connue qui associe véhicule et liberté. Mathieu Flonneau, dans son ouvrage « Les cultures du volant, 20e et 21e siècle », indique, je le cite, que dès son premier élan, ou presque, l'automobile a atteint ce qu'en astronomie l'on appellerait la vitesse de libération, soit un arrachement durable à la pesanteur. Cette vitesse de libération est au cœur des deux nouvelles dont je vais traiter dans Rock Springs, comme le suggère l'intrigue de la nouvelle éponyme qui décrit un couple dont l'homme vient de voler une voiture et entrevoit la possibilité d'un nouveau départ grâce à cet engin. La plupart des nouvelles mettent également en scène des trajets en voiture qui ont des allures de voyage initiatique et amènent de profonds changements dans l'univers des personnages. On trouve également des voyages en train, des voyages en avion, mais bon, je ne pouvais pas tout traiter et je pense qu'on parlera de train plus tard. Donc, il sera donc intéressant ici de voir par quel biais l'automobile permet aux personnages de fuir l'ennui du quotidien en renforçant l'absence d'ancrage dans un lieu précis. The personal freedom and mobility offered by the car offset the need for a large house with many rooms into which one could escape and seek privacy. L'automobile favorise un mouvement vers l'extérieur tout en générant un voyage vers l'intérieur. Rock Springs, qui ouvre le recueil, est emblématique de l'idée que suggère le titre d'un article de Joseph Interrent, The Road to Utopia, donc l'utopie. Et si Interrent ne propose pas de définition de cette utopie, on reconnaît le mot utopie, qui renvoie à un non-lieu, à un espace idéal fantasmé. L'automobile serait le lieu transitoire entre le connu et l'inconnu, comme c'est le cas dans Rock Springs, où le narrateur, au volant d'une Mercedes couleur canneberge, volée sur un parking dans le Montana, décide d'aller vers ce non-lieu, même si au début, le but est bien de partir en Floride, comme les personnages de Flannery O'Connor dans Les braves gens ne courent pas les rues. Mais on sait que là aussi, ils n'arriveront pas en Floride. Donc, le but est là d'échapper à la justice parce qu'il a produit plusieurs chèques sans provision et que dans le Montana, c'est illégal et qu'on peut donc être incarcéré pour chèque en bois. À première vue, tout devait bien se passer, comme nous l'indique le narrateur. « I'd gotten us a good car. I stole it because I thought it would be comfortable over a long haul, because I thought it got good mileage, which it didn't, and because I'd never had a good car in my life, just an old Chevy junker and old trucks back when I was a kid swamping citrus with Cubans. » L'effet anaphorique montre bien le choix du narrateur était motivé et réfléchi. Pourtant, une négation remet tout en question. L'homme qui croyait avoir le contrôle a été dupé par la machine qui finit par montrer des signes de faiblesse. Le voyage s'interrompt quand la machine s'essouffle et que le conducteur se voit forcé de s'arrêter. Edna, sa petite amie, regrette alors d'avoir accepté de prendre la route. Mais Earl ne se laisse pas abattre. L'endroit où la machine rend l'âme est proche d'un camp de travailleurs et Earl décide d'aller y chercher de l'aide. Il rencontre une femme noire avec laquelle une discussion s'engage sur l'automobile. « We can't live without cars, can we ?»« That's the honest truth, I said. »« They're like our hearts. » La voiture est présentée comme un prolongement de l'homme et une raison de vivre. Selon Jean Brun, la machine a été, je le cite, « conçue pour qu'elle devienne la compagne de l'homme, voire sa déesse ». La description initiale de la Mercedes confirme ce point, puisque Earl l'idéalise et ne donne que peu d'informations sur sa compagne humaine. La voiture offrirait donc une stabilité, un équilibre, qu'Earl n'entrevoit nulle part dans son couple. L'artificiel prime dans la nouvelle, car comme souvent chez Ford, tout n'est que surface. C'est en taxi que se termine le voyage. Earl perd donc le contrôle de la situation. Et ainsi que l'explique encore Jean Brun, les machines apportent beaucoup plus qu'un supplément de commodité et de confort. On espère d'elles qu'elles fabriqueront et qu'elles fourniront de l'existence. Quelle existence sans automobile ? On peut s'interroger. Et la nouvelle se referme sur de nombreuses questions qui portent à croire que d'avenir, il n'y aura peut-être pas pour le couple. Une autre nouvelle, intitulée « Sweethearts décrit également un trajet en automobile vers une prison où l'ex-petite amie Darlene, l'actuelle petite amie du narrateur, doit être incarcérée. Ici, c'est des images qui suggèrent que le passé se déroule aux yeux donc, des passagers, tandis que la voiture progresse. Et on peut lire, page 76... We drove back to where the river turned down even with the highway again and went off on a dirt and gravel road for a mile. I stopped under some pine trees and picked up the gun. So, Bobby, donc l'ex-petite amie, avait caché son flingue sous le siège. I stopped under some pine trees and picked up the gun and looked at it to see if it was loaded and found it wasn't. Then Arlene took it by the barrel and flung it out of the window without even leaving the car, spun it not very far from the bank but into deep water where it hit with no splash and was gone in an instant. Maybe that will change his luck, I said, and I felt better about Bobby for having the gun out of the car, as if he was safer now, in less danger of ruining his life and other people's too. Les références à l'Interstate laissent entrevoir un système qui rappelle les canaux sanguins et qui rappelle également un commentaire de Baudrillard dans Amérique lorsqu'il écrit « Les machines elles-mêmes, avec leur fluidité et leur conduite automatique, ont créé un milieu qui leur ressemble. » L'ex-petite amie est, lui, rejeté de ce milieu. Il est hors la loi, hors de la loi que dicte la route. I wrote 77. Dans la nouvelle, il est même défini, donc « He became a prisoner like a piece of useless machinery. » Donc, il devient rebut. L'avenir doit se construire sans lui, dans un univers machinique réglé. Chez Ford, ce n'est pas la machine à écrire qui permet de donner une forme à l'imagination. L'auteur, citant son ami Joyce Carol Oates, qui lui a toujours lancé « Est-ce que tu voudrais que j'écrive plus de livres que j'en écris déjà ?» préfère rédiger ses textes à la main. Le véritable moteur, la véritable machine qui donne vie à l'œuvre, semble être la nouvelle. Le dernier roman de Ford, « Canada », développe d'ailleurs un texte bref qu'il avait écrit en 1989, dans lequel l'automobile est un personnage clé sans lequel le jeune protagoniste n'aurait pas d'avenir. Ford introduit une touche d'humour à nouveau dans son dernier recueil « Let me be frank with you » en faisant dire à Frank Bascom « A Ford Explorer, why is it always a Ford Explorer, has already gone in the ditch ?» Chez Ford, l'exploration est souvent périlleuse et la machine rêvée décevante. Les personnages perdent le nord, tandis que leur créateur s'efforce d'oublier le sud. Merci.